Bon, bien, Anto, pendant qu'un ouragan frappe la Jamaïque, il y a une loi spéciale qui a frappé les médecins. Et là, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est un véritable ouragan médiatique que cette guerre ouverte entre les médecins et le gouvernement de la CAQ et le ministre Christian Dubé.
Oui, effectivement, c'est une tempête. Je ne sais pas de catégorie combien, là,
ouais,
mais ça en est une bonne. Ça en est une vraie. Ce qui frappe aujourd'hui, puis depuis hier, c'est vraiment la quantité de témoignages du point de vue des médecins. Parce qu'on entendait beaucoup parler des fédérations dans les dernières semaines. Mais là, c'est vraiment des médecins individuellement qui nous disent « Voici comment, moi, ça va me toucher. Puis voici comment ça ne fait aucun sens, en fait, ces mesures-là dans ma réalité. » Moi, je pense que les Québécois sont relativement d'accord avec les objectifs du projet de loi. Mm-hmm. C'est-à-dire, écoutez, ça fait des mois qu'on négocie, les médecins ne montrent pas d'ouverture pour les indicateurs de performance. Il faut qu'on change le mode de rémunération. On a tourné autour du pot dans les dernières ententes, puis il n'y a rien qui a changé. Je pense que les gens sont plutôt d'accord avec ces objectifs-là. Mais là, de voir à quel point il y a des non-sens dans le projet de loi, puis des problématiques, des choses qui ne fonctionnent pas, tu te dis, ouais, mais là, on n'était pas à 3-4 semaines, là.
C'est
pas obligé de botcher non plus.
Non, puis d'avoir une loi autant matraque, là. D'ailleurs, je te fais entendre, c'est Patrice Roy sur Radio-Canada qui a justement questionné Christian Dubé à cet effet-là. Hey, comment ça, c'est aussi rapide et aussi fort? C'est un échange d'environ une minute.
Et savez-vous quoi, M. le ministre?
Oui.
Ça, c'est un bon exemple de notre discussion actuellement. Quand on dépose un projet de loi, puis vous le savez, à l'Assemblée nationale, épais comme ça, commission parlementaire, bonification du projet de loi, réflexion sur l'impact insoupçonné d'une loi, vous n'avez pas eu le temps de faire ça.
M. Roy, j'ai déposé le projet de loi au mois de mai.
Oui, mais c'est un autre, là.
Non. L'essentiel de ce qui est là, c'est le projet de loi 106 qu'on a déposé au mois de mai. On a demandé aux médecins de nous commenter ça pendant 4 mois. Puis ils ont dit, on ne veut pas discuter de ça. On ne peut pas arriver aujourd'hui puis de faire semblant que ce n'est pas arrivé.
Ouais, mais là, ils peuvent parce que c'est ce qu'ils font. Alors, là, vous dites, je les invite à négocier.
Exactement. Moi, je dis, le mode de rémunération où il y a des cibles, le mode de rémunération qui va avoir un accès sur les résultats, ça change.
C'est réglé.
Mais les tarifs, eux, j'en ai mis un. Il y a un tarif qui est là. Venez le discuter pendant 60 jours. Alors, si, par exemple, pour les premiers rendez-vous, on devrait le donner à toutes les références, on le fera. L'important, c'est d'être capable d'en discuter.
Bon, Anto, je vais vous pitcher 113 pages par la tête un vendredi matin. Puis après ça, je vais vous dire, « Hey, ma porte est ouverte, j'ai les bras ouverts. Venez négocier, je vous aime. » Marche pas de même, là.
Bonjour, l'ambiance.
Ben non, c'est
mais
ça.
Déjà, l'ambiance n'était pas très bonne pour négocier avant. Là, c'est sûr que c'est pire que pire. Mais c'est pas faux ce que dit le ministre quand il dit « Moi, là, tous ces éléments-là, on aurait pu en discuter ensemble. » Et il n'y avait pas d'ouverture. Tellement à un tel point qu'à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas dans l'intérêt des fédérations, finalement, qu'il y ait une loi spéciale parce que leurs membres étaient tellement crinqués que peu importe ce qu'ils auraient signé, ça n'aurait pas fait.
Oui, c'est vrai. Ça me fait penser beaucoup aux enseignants avec la FAE, justement, lors de la grève générale où ça a passé à 50%.1.
Mais quand tu mobilises tes membres, là, à un moment donné, il faut les faire descendre du rideau. Puis il faut leur dire, bon, écoutez, parce qu'une entente, ça finit par être des compromis. Ça ne sera pas exactement comme avant, là.
Non,
ça
ne
sera
effet.
Pas tout ce que vous voulez. Donc, est-ce que les fédérations, finalement, ont fait ce travail-là, à un moment donné, de faire redescendre le niveau d'intensité? Non. Puis, je pense qu'ils ont regardé leurs membres puis se sont dit, bon, il n'y a rien qu'on va pouvoir leur présenter qui va leur convenir. Bon, cela étant, on n'est pas dans leur tête, fait que je ne peux pas leur prêter des intentions comme telles. Mais c'est vrai que maintenant que la loi est passée, puis que là, les gens se rendent compte que crime, le travail en commission parlementaire, ça a une utilité, hein?
Ben oui.
Genre, notamment, régler certains effets pervers qu'on n'avait pas vus à première vue, etc., améliorer le projet de loi. Mais là, il reste plein de choses à améliorer. Puis même si les gens sont fâchés, puis même si tout le monde est à couteau tiré, la négociation doit quand même se poursuivre. Parce que là, si on veut que ça fonctionne, à un moment donné, tu sais, pour les médecins, ça pourrait être tentant de laisser les choses aller pour prouver que finalement, ça ne marchait pas, cette approche-là. Hein. Tu sais, des fois, quand on n'est pas d'accord avec une décision, on a le goût un peu de saboter. Puis de, mm-hmm. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, là, mais ça ne donne pas envie d'aider au succès.
De collaborer.
Ouais. Mais là, dans l'intérêt, non seulement de tous les travailleurs de la santé, mais aussi du patient, il faut continuer de travailler pour peaufiner les choses puis pour s'assurer que les non-sens qui sont dans le projet de loi ne se déploient pas sur le terrain.
On se questionne à savoir, c'est-tu un genre de... À un moment donné, on a frappé le mur d'égo dans les négociations, autant pour les médecins que pour le gouvernement, que ce soit pour l'organisation ou autre. Puis après, il n'y a tellement pas eu d'avancement que le gouvernement a décidé d'y aller avec le bras de fer puis faire ben, « tant pis, on la passe », etc. On dirait que c'est ça. T'en penses quoi, toi?
Je ne sais pas si c'est tant une question d'ego que du côté des médecins, d'exaspération. Exaspéré de travailler dans un système qui ne fonctionne pas. Et ça, je les crois. Je pense qu'on doit les croire et il y a beaucoup de choses qui soulignent qu'on doit écouter. Mais il y avait aussi quelque chose d'un peu pourri dans le mode de rémunération à laquelle, c'est une chose à laquelle on doit s'attaquer. C'est-à-dire que le mode qui est seulement payé à l'acte n'a pas donné les fruits. Okay? Donc, on a rajouté de l'argent pour essayer que les actes soient plus nombreux puis que finalement, les gens aient plus accès à des soins. Ça n'a pas fonctionné. Si on y allait seulement par capitation, qu'on appelle un mot technique qui veut dire que dans le fond, on te paye selon le nombre de patients que tu prends en charge, mais ça ne marche pas non plus. Parce que là, tu vas prendre plein de patients, mais est-ce que tu vas poser les actes puis vraiment les voir puis les soigner?
C'est là qu'on parle de médecine fast-food. Là.
C'est là qu'on arrive dans le fast-food. Alors là, on a trouvé une solution où on a mis une partie de la rémunération qui est liée à des objectifs pour essayer d'augmenter la productivité collective des médecins. Mais là, quand on arrive dans l'individuel, on trouve toutes sortes de folies. Mais on a essayé de faire une espèce de compromis entre qui va pousser à faire une plus grande prise en charge. Puis là, quand je dis un compromis, bien là, c'est fini. Il n'y a plus de compromis. À partir du moment où on a passé à la loi spéciale, maintenant, ils sont obligés d'inscrire des patients.
Une prise en charge collective qui va amener une façon de faire où il y aura peut-être des délateurs, des gens qui vont dire... « Toi, tu fais pas bien ça, t'envoies pas assez
terrible.
De patients. »
Mais ça, je crois pas à ça. Mais oui,
ouais, ben d'ailleurs, le docteur Vincent Oliva, qui est justement le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, tenait une conférence de presse à 11h ce matin. On a annoncé qu'on allait justement aller en justice pour combattre la loi spéciale et certains éléments de cette loi-là, dont celui-ci.
Ce qui est encore plus préoccupant, c'est la forme, c'est l'approche, c'est la façon dont ce gouvernement-là s'en est pris pour arriver à une loi comme ça. Alors, pendant qu'ils nous leurraient à la table de négociation, cette loi-là qui ne s'est pas écrite en un week-end de 113 pages, ils étaient en train de la rédiger. Et quand on l'analyse comme il faut, on se rend compte, dans le fond, que ça brime des libertés individuelles élémentaires. Les médecins n'ont pas le droit de ralentir. Hein, ils ne peuvent pas se désengager. Puis même si le ministre Dubé dit « oui, mais c'est pas l'intention, c'est ça qui est écrit ».
On pousse loin, là. T'sais, quand on dit « hey, s'il y en a deux qui partent, ça peut être une action concertée, puis vous allez payer des amendes, vous allez être barré du Québec à vie ». Ouf!
On se donne,
c'est autoritaire, pas à peu près.
On se donne des pouvoirs. Est-ce que le gouvernement va les utiliser? Moi, je crois pas à ça. Mais, je veux dire, une fois que c'est écrit dans la loi, les médecins ont tout le beau jeu d'amener ça dans les tribunaux. Puis, honnêtement, il y a plein d'affaires qui ne passeront pas le test des tribunaux, on le sait. Mais revenons sur la démarche plus globale du ministre.
Ouais.
OK? À partir du moment où tu n'arrives pas à faire passer rien par négociation, que tout le monde est sur ses positions, tu sais, la méthode de Christian Dubé, puis on l'a observé, là, ça fait maintenant quelques années, depuis 2020, qu'il est ministre, c'est de dire, OK, ça y est, je casse ce moule-là. Il l'a fait avec plusieurs choses. On pourrait parler des infirmières, des agences de placement d'infirmières notamment. On casse ce moule-là, on casse le moule du ministère en créant une agence, etc. Tout n'est pas magique, puis ça ne donne pas les résultats en 5 minutes. Mais là, tout le monde dit « attention, il y a des risques, etc. » J'ai l'impression qu'il les assume, ces risques-là. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Les nouveaux médecins qui vont arriver dans le système, ceux qui vont rester, vont évoluer dans ce nouveau deal-là. Mais c'est sûr que quand toi, tu as connu des années où ça ne fonctionnait pas comme ça, bien, il y a une gestion du changement qui ne se fait pas en douceur présentement. Fait que c'est sûr qu'il va avoir des œufs cassés. En même temps, Là, j'entends toutes les menaces d'exode, les médecins vont s'en aller dans d'autres provinces. C'est possible qu'il y en ait. Mais, tu sais, je veux juste réfléchissez, là, demain matin, là, Pascal, Jeff, vous décidez que ça ne fait plus votre affaire, vous voulez vivre dans une autre province. Pensez à tout ce que ça implique de changer de province avec vos avoirs, vos maisons, la barrière de la langue, toutes les affaires d'ordre professionnel, les écoles.
Pour les enfants.
Les écoles, ouais. Pour les enfants. Je m'excuse, mais. Moi, je crois pas là, qu'il y a 25 % des médecins qui vont partir demain matin nécessairement.
Hey, tu vois, moi, je t'emporte à foi avec toi là-dessus.
Vas-y donc.
J'ai parlé à plusieurs médecins qui ont des familles qui me disent hey, écoute, on est en train de regarder les coûts des maisons en Ontario, Nouveau-Brunswick. On fait quoi, les enfants sont en jeune âge.
Ils vont être capables.
Ils sont en train de l'évaluer. À savoir s'ils vont le faire, je ne sais pas. Mais il y a une grosse évaluation qui se fait de la part de plusieurs médecins à l'heure actuelle.
Il y a quelques temps, avant que le médecin, que le ministre de la Santé, pardon, décide de mettre des limitations pour pouvoir passer au privé, quand il y a eu les premières mesures qui déplaisaient aux médecins dans les dernières années, il y en a plein qui se sont désaffiliés du système public aussi. Donc, oui, il y a des risques à faire ce que le ministre de la Santé fait en ce moment. Mais outre la démarche puis l'objectif que je respecte, je trouve que l'agenda est quand même... Tu sais, c'est sûr que c'est difficile de ne pas se dire le gouvernement est pressé de gagner des points politiques.
Ben oui, c'est clair. Là.
Donc là, tout ce qu'ils font, on le regarde à travers cette lunette-là et on se dit, ben dans le fond, c'est qu'ils essaient de remonter dans les sondages. Okay? Donc, on est très, très sceptique face à tout ce qu'ils font. Et là, d'avoir précipité ce projet de loi-là la semaine passée, avec des lacunes importantes, tu dis, OK, tu sais, mettons que tu es François Legault. Tu veux faire bouger l'aiguille d'ici Noël, mettons.
Ben oui. Parce
donc,
que sinon,
ça
parce que sinon, ça se peut que tu dises, ça va être le chant du cygne. Puis Christian Dubé, c'est mon grand chum. Fait qu'il va me
puis
donner un coup de main.
Puis il est populaire. Puis Christian Dubé, c'était un des derniers ministres qui restait populaire. Donc, est-ce qu'il a joué, dans le fond, une carte un peu le tout pour le tout avec cette histoire de médecin? C'est sûr que la question se pose. Moi, je pense que sur le fond des choses, tout le monde se dit, le statu quo est plus possible, il fallait que ça bouge. Mais de là à faire ça la semaine passée avec des lacunes
importantes
dans le projet de loi?
Moi, c'est ça qui m'énerve, là, je vais le dire comme ça, puis que je comprends pas. C'est de l'avoir fait la semaine passée. Il n'y avait rien qui pressait à part l'agenda politique de la CAQ.
Ben, il y avait l'enseignement, c'est d'arrêter aussi les moyens de pression.
Oui, pour l'enseignement.
L'enseignement en médecine.
Mais ça, je crois que si on s'était... Tu sais, la Fédération des médecins spécialistes avait retourné justement à l'enseignement parce qu'on avait donné une ouverture justement à la négociation. C'est l'agenda politique de la CAQ qui m'énerve là-dedans.
Je me suis demandé si une éclipse un peu... d'attention sur la SAQ CLIC, la Commission Galant, tout ce qui se passait un petit peu plus négatif, puis se sont dit, ah, peut-être qu'on va l'intéresser, les citoyens, citoyennes, les patients, du moins, avec un genre de refonte rapide de la santé, puis on va la sortir plus rapidement.
Il y a des sondages récemment qui nous ont confirmé que la santé, c'était la priorité des Québécois.
Hein? Ouais.
Fait que là, c'est drôle, parce qu'on dit toujours, à chaque fois qu'ils font quelque chose, on dit que c'est une diversion. Bien là, on fait des diversions, de diversions, de diversions, mais on parlait beaucoup d'identité cet automne, immigration, laïcité, etc. Puis on disait que c'était une diversion aussi. Là, c'est santé, puis on dit, ah, c'est peut-être une diversion. Moi, je pense qu'ils ont des sondages qui disent que les Québécois ont une opinion ordinaire des médecins dans leur collectivité.
Bien,
parce que leurs
vu.
Médecins, à eux, ils l'aiment.
On l'a vu cet été avec ce processus de négociation-là où les médecins fermaient la porte. Je vais juste prendre les textos des auditeurs qui, en passant 418-971-1021, qui n'étaient pas très positifs envers les médecins. Ça, tu as raison de le dire. Moi, j'aime beaucoup ma médecin de famille. Mais j'aimais pas la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
Mais souvent, c'est des gens qui sont bien rémunérés, c'est des gens un petit peu plus haut dans la hiérarchie, dans ça. Puis, tu sais, tantôt, on va vous présenter, Jeff et moi, un dossier complet. Je travaille là-dessus depuis plusieurs heures, j'ai questionné plein de médecins. Puis, la deuxième question que j'ai posée à plusieurs personnes différentes, répondent tous aux mêmes cinq questions, c'est pourquoi on vise les médecins comme étant problématiques selon vous? Parce que c'est un peu ça qu'on a comme impression.
Bien, puis les médecins répondront ce qu'ils veulent. Moi, je vais vous donner une partie de ma perspective à moi là-dessus. C'est que le médecin est au centre de tout dans notre système de santé. Donc, c'est pas vrai qu'on peut tout changer dans le système de santé sans toucher à la manière d'organiser les soins et de rémunérer les médecins. C'est beaucoup d'argent et de l'argent qu'on met... Chez les médecins, c'est de l'argent qu'on ne peut pas mettre ailleurs aussi à un moment donné. Il faut que nos dollars fassent plus de chemin. Je pense que ça fait partie un peu du pari du ministre de la Santé, c'est de se dire, OK, ça va être difficile, ça va être une grosse gestion du changement. Et il y a des objectifs qui sont effectivement individuellement, des fois, pas capables d'atteindre. Mais ça va provoquer tellement... En fait, ce que ça fait en sorte, c'est que les médecins vont avoir une motivation. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de motivation, mais quand tu as une partie de ta rémunération qui dépend de l'organisation des soins puis que ce soit plus efficace, à ce que tout se restructure autrement, finalement. Ouais. Parce qu'il y a quand même plusieurs clés qui sont dans les mains des médecins. Là, c'est sûr qu'ils sont complètement désengagés. Ben, ils le feront pas, là.
As-tu l'impression qu'on pourrait faire un genre de parallèle entre quand tu as une entreprise puis certains de tes employés, tu les fais devenir actionnaires de l'entreprise en se disant ils vont s'impliquer dans la façon de faire rouler l'entreprise?
C'est pas une mauvaise comparaison, c'est juste que les médecins, c'est pas des employés de l'État. Hein. C'est comme eux qui sont à la tête de leur entreprise. Ils sont incorporés.
Travailleurs autonomes.
Ils ont de la clientèle à l'infini. Ils manqueront jamais de clients. C'est très difficile de faire une comparaison avec une entreprise privée. Puis en plus, on les paye évidemment avec de l'argent public. Puis on le sait qu'une grosse problématique, c'est l'organisation. C'est pas... Eux, ils nous disent on manque de médecins. Peut-être qu'il en manque un petit peu, mais c'est un problème d'organisation. Puis, tu sais, si on ouvrait, on demandait aux gens de nous écrire, avez-vous vu récemment un enjeu de désorganisation dans le système de santé? Et vous allez en avoir une trollée de témoignages,
3-4 émissions
de suite. Des non-sens, des affaires bureaucratiques tellement ridicules.
Des médecins qui attendent pour opérer parce que la salle n'est pas prête puis qu'il n'y a pas d'infirmiers et infirmières qui ont été attitrés à cette opération-là, mais qui seraient prêts, ça nous...
Moi, Antonine, c'est raconté par beaucoup
raconté,
de gens.
Là,
des gens
des années.
Qui pensent qu'ils sont sur la liste d'attente du guichet d'accès puis que finalement, ils se rendent compte qu'ils ne le sont pas parce que supposément qu'ils ont un médecin de famille, mais dans le fond, leur médecin a pris leur retraite depuis 20 ans. Des niaiseries de même, il y en a plein.
Selon un auditeur ou une auditrice, François Legault s'est complètement trompé. C'est Cruella Dubé, non pas Cruella Durand. Oh. Hey, on termine le caucus avec PSPP. Est-ce qu'il s'est mis une fois de plus les pieds dans les plats? On l'écoute.
C'est qu'un Parti libéral du Québec qui fait des campagnes de peur et qui n'a presque pas de contenu, on a vu ça à presque chaque décennie de notre histoire au Québec. Et ça a toujours mené à des gouvernements affairistes et corrompus. Donc, je nous invite à ne pas céder à ce genre de discours divisif et de peur. Si ce parti-là nous ment sur l'essentiel, bien, ils vont probablement nous mentir sur tout le reste, comme l'histoire du Québec, en ce qui a trait au Parti libéral, nous le confirme.
Bon, Pablo Rodriguez, c'est pas mon préféré. J'ai pas trouvé qu'il ait été super flamboyant en fin de semaine au Congrès des libéraux. Il est à 12 % dans les sondages comme faisant le meilleur premier ministre pendant que François Legault est à 14. Donc, ça prouve à quel point il est en difficulté. Mais là, de là à traiter les libéraux de corrompus, là, il y en a plus de libéraux corrompus. Là. C'est quoi? On ramène cette gang-là à Jean Charest? Là. Bon. J'en vois plus, me semble, de gang comme
d'abord.
Ça.
Il n'a pas dit que les libéraux étaient corrompus. C'est vrai que si tu écoutes ce qu'il dit, il dit que le fait que les libéraux secouent toujours l'espèce d'épouvantail d'un référendum puis tout ça, ça fait en sorte qu'on ne se pose pas les bonnes questions, qu'on ne débat pas sur les bonnes affaires et que ça a mené, par le passé, à un gouvernement libéral corrompu. OK, donc il n'a pas accusé... Ouais. Pablo Rodriguez d'être corrompu, mais ça y tentait de plugger le mot corruption.
Oui, c'est ça, ça y tentait. Bon. Puis là, en même temps, ben, c'est-tu la bonne façon de faire? T'es-tu même dans les sondages? Là? Fais donc un Bruno Marchand de toi-même. Là. T'sais, Bruno Marchand est à 40% dans les sondages. Là. Il sort aucune clip qui va venir le mettre dans une position où les gens vont devoir dire « Bruno Marchand n'est pas gentil ».
Mais ça, c'est le réflexe d'un parti qui est dans la troisième opposition et qui devait crier très, très fort pour se faire remarquer.
C'est vrai.
Le PQ, là, il y a quelques années, en 2022, là, le monde il disait que c'était mort. Là. C'est fini, là, le PQ. Là. C'est terminé. Là. Donc, ils ont fait des coups d'éclat. Ils ont réussi à faire des bons coups, des espèces de tactiques qu'ils ont menées finalement à se faire entendre. Et là, ils sont premiers dans les sondages. Effectivement, il faut que tu changes tes réflexes quand tu es premier dans les sondages et que tu es à quelques pas du Honoré Bercier, là, de devenir premier ministre,
ben oui,
là, de quitter les banquettes de l'opposition. Là.
Parce que je reviens sur mon exemple de Bruno Marchand. Quand il était nez à nez dans les sondages avec Sam Hamad, je couvrais les conférences de presse de Bruno Marchand acerbe envers Sam Hamad.
Oui,
il
l'attaquait,
il frappait dessus. Et là, depuis deux semaines, quand il est à 40 %, là, Bonjour, je vous présente mon annonce du jour, ça va bien?
Sur le contenu, ouais. On présente notre vision.
C'est ça. Des questions? Ah, posez cette question-là à M. Hamad et M. Lachance, ils vont vous répondre. Il n'y attaque plus personne!
Moi,
là.
Je laisse les autres se chicaner, moi, je présente mes idées. Bon, ben c'est ça. Ça devrait être le réflexe maintenant du PQ de changer. Il y a aussi une question de personnalité pour Paul Saint-Pierre Plamondon qui a tendance à faire flèche de tout bois.
Ben c'est ce que j'allais te demander. Il va-tu être capable de le faire, PSPP?
Ben, ça a l'air difficile. Le pli est bien pris. Puis j'ai trouvé que, en fait, c'est correct, OK? Pablo Rodriguez sort et dit « C'est épouvantable, ils veulent vous consulter et vous demander si vous voulez la souveraineté du Québec. Ça, c'était peurant, ça, c'était... Il faut pas faire ça, là, c'est... » Bon, moi, si je suis chef du PQ, je me dis « Hey, là, bonhomme, là, c'est une bonne occasion de répondre que c'est des campagnes de peur, que c'est des épouvantails, puis que c'est pour éviter de parler des vraies affaires, parce qu'on n'a aucune idée c'est quoi la vision de Pablo Rodriguez. Ouais. » On lui reproche ça, hein, d'être dans les slogans, dans les lieux communs. Donc, tout ça, ça va. Mais quand tu rajoutes le petit mot « corrompu », là, tu lui donnes une porte de sortie. Parce que là, il va sauter là-dessus, puis tu vas penser « Ça n'a pas de bon sens, puis on va vous poursuivre, c'est de la diffamation. » Surtout que pour vrai, c'est vrai, là, ils n'étaient pas là à l'époque de Jean Charest. Il n'y a plus un ministre de l'époque de Jean Charest qui est là. Il n'y a personne qui pense que...
Ouais, t'es Marc-Yvan Côté, puis dans le PLQ.
Puis je veux juste dire que pour être corrompu, ça fait 7 ans que le Parti libéral est dans l'opposition. Là. Pour être corrompu dans l'opposition, il faut vraiment se forcer parce que t'as pas grand-chose à donner en échange de dons politiques quand t'es dans l'opposition, à part poser une question en période de questions. Donc, honnêtement, ça aurait fait pareil, finalement, de l'attaquer sur son manque de contenu, ouais. De dire que au lieu de nous faire peur avec des référendums, de nous expliquer c'est quoi sa vision pour le Québec, qu'est-ce qu'il va faire exactement pour les médecins? Qu'est-ce qu'il va faire pour les places en garderie? C'est toutes des questions auxquelles Pablo Rodriguez ne répond jamais. Donc, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, tu sais, du piment fort, moi, j'aime ça dans la vie, là, mais trop de piment, c'est pas bon, OK? C'est le dosage. Je pense que c'est notamment ce qui l'a mené là, qu'il laisse pas des choses s'installer, il répond, il est très réactif, mais à un moment donné, choisis aussi ton dosage dans ta réponse. Parce que là, tous les... Ben, il attaque beaucoup les chroniqueurs.
Parce que tu vas être attaqué, là, t'es promis.
Ben, c'est ça.
C'est clair que tu es attaqué.
Puis il avait été énormément apprécié dans les derniers débats qu'il y avait eu des communs pour les chefs parce qu'il avait gardé son sang-froid, il avait été dans un calme, il avait été capable de répondre avec une certaine lucidité. Puis ça, il avait monté dans les sondages par cette prestance-là aussi auparavant.
Oui, exactement. Donc moi, j'ai trouvé qu'il a donné une porte de sortie, finalement, encore une fois, à Pablo Rodriguez avec le mot corrompu, que ça aurait fait, ça aurait fait pareil de répondre sans rajouter ce mot-là. Cela dit, il y a beaucoup de gens qui. Chez qui ça résonne. Pas les indécis, mais les vrais péquistes là, qui ont leur carte de membre dans les mains tout le temps, là, évidemment, eux autres, ils tombent pas en bas de leur chaise aujourd'hui.
Un petit corrompu, là, ça leur fait du bien.
Ah, ça
mais
leur
y a-tu besoin de parler à sa base?
Ben, pas vraiment. Ils vont aller où s'ils ne parlent pas que... S'ils ne disent pas que les libéraux sont corrompus, les péquistes ne vont pas s'en aller, là.
Ben non, puis je termine là-dessus, c'est parce que c'est de la façon qu'il le fait aussi. Il l'a quasiment fait en annonce nationale. Il y a rien à l'Assemblée nationale hier. Il réserve la salle à 11h. Il se présente. Il est la seule conférence de presse de la journée. T'sais, s'il avait glissé dans un scrum quelconque, je rebats. Il l'a planifié.
Et tout ça arrive dans un moment où la CAQ est quand même dans la chenoute, là.
Ben, c'est ça. Tout le monde parle de la loi spéciale 2. Pourquoi tu t'en viens faire ça?
C'est un peu... Ouais, c'est ça. On peut se questionner sur la stratégie. Cela dit, c'est vrai que Pablo Rodriguez puis ses épouvantails de la souveraineté, moi, ça me fait rire. Ayez donc peur qu'on vous consulte. T'sais, c'est un référendum, là, c'est pas un monstre qui va venir vous croquer les pieds. Là. C'est juste on va vous demander votre avis sur quelque chose. C'est démocratique.
Pablo a peur.
Il a peur.
Il a peur de tout, Pablo. Nouvelle de dernière heure, Pascal.
Oui, on vient d'apprendre en fait qu'hier, sur ordre du président Trump, il y a le ministère de la guerre, le fameux ministère qu'il a créé, qui a mené 3 frappes létales contre 4 bateaux. Ces bateaux-là sont présumés être des bateaux de narcotrafiquants dans le Pacifique Est. Alors, ça s'est passé, ça a tué 14 hommes. C'est ce qu'on a annoncé du côté du secrétaire à la guerre. Et c'est Pete Hegseth qui l'a fait sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a visé ces gens-là parce qu'on croyait que c'est des organisations désignées comme terroristes par les États-Unis, se livrant au narcotrafic dans le Pacifique, comme je vous disais, Est. Et là, au total, c'est 3 frappes qui ont tué 14 personnes. Alors, c'est sûr que ça va faire jaser aujourd'hui. C'est toutes des frappes qui ont été menées dans les eaux internationales.
Donc, à suivre du côté des États-Unis, mais chose certaine, ça brasse énormément. Puis, sais, de régler ça à coup de bombe comme ça, ça me laisse toujours pantois parce que je me dis, écoute, on peut avoir tué des innocents là-dedans.
Présumé.
Peut...
Présumé, c'est important comme terme actuel qui est même utilisé par les prises de parole du côté des États-Unis. Et on est rendu à 57 personnes qui ont été tuées dans des frappes. Au total, c'est 14 embarcations qui ont été présentées comme celles de narcotrafiquants détruites par des frappes américaines.
Le droit international, et corrigez-moi, je me trompe, mesdames, ne marche pas à coup de bombe, mais bien à coup d'arrestation et de poursuite en justice.
Ben, leur légalité est largement mise en doute en ce moment.
Exactement. Donc, merci beaucoup, Pascal, pour cette nouvelle de dernière minute. C'était très apprécié. Antonine, merci pour le caucus. On se parle demain. Et on fait une courte pause ici. Par la suite, Mathias Turcotte vient s'installer. Il a couvert deux points de presse. Bruno Marchand et Sam Hamad ce matin. Donc, on revient en actualité municipale. Et on va faire un gros tour de nouvelles parce que c'est une grosse journée d'actualité, Pascal Sévé. Je me trompe-tu?
Autant dans les faits divers que dans ce qu'on vient de vous apprendre.
Exactement. Puis on va revenir sur ce match des Jays. C'était fait en 18e manche. Tard. 2h45 à matin.
L'as-tu écouté au complet?
Non, je me suis couché après la 8e manche quand même. Je pouvais plus ça faire, mais je me suis réveillé, puis c'était en 16e manche. J'ai passé proche, je me disais, j'ai checké sur mon téléphone. Ah, 16e manche, je vois-tu pas? Mais j'ai dit, ah non, je vais dormir. Alors, on fait une courte pause et on revient à l'émission d'Angers sur Boulevard 102.1.